le nombre de deuils que j'ai pas fait. J'ai perdu mon mari depuis, voilà, c'est vrai. Je me suis fiancé avec une merveilleuse petite jeune fille. Et puis, c'est parce qu'il m'a pris, la peur, l'angoisse, que sais-je, enfin, je l'ai balancé, puis à 80 ans, je me mords encore les doigts. C'est vrai. Et puis, finalement, on se marie avec quelqu'un d'autre qu'on aime bien. Hein. Mais c'est vrai que, bon, on n'a pas fait le deuil de petits problèmes comme ça, sentimentaux, d'adolescence, de l'enfance ou de l'âge adulte. Bon. Alors, il y a plein de problèmes de deuil. Et on a des événements analogiques, bon, qui répercutent et qui réveillent cette mort. Parce que finalement, je vis à partir de ça. Je vis. La vie et la mort sont tellement coadjacents que les lieux de ma mort sont les lieux que j'aime retrouver pour retrouver la vie. Sans arrêt, il y a cette espèce d'appel en moi à me rapprocher instinctivement, quoi, dans des situations, dans des circonstances où je vais me rapprocher. J'allais dire, d'une manière analogique, je ne sais pas comment dire autrement, donc le plus possible de cet instant de cette mort, de cet instant qui est ancien. Ben, je ne sais pas, il faudrait donner beaucoup d'exemples, bien entendu, mais je pense que pour chacun d'entre nous, ce n'est pas très difficile à voir. Il y a des choses qui sont très, très, qui sont très... Vous savez, par exemple, bon, moi, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est parce que je pense à mes amours sentimentaux de ma jeunesse. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que quand... bon, lorsque... Enfin, moi, je parle pas pour moi, je parle pour certaines de mes amies, de mes copines, quoi. Ben, à partir du moment où je les laissais tomber, je comprends que c'était très malheureux. Voilà. D'abord, c'était toujours très très injuste, hein, c'est vrai. Hein. J'en ai conscience, ça, bon. Mais, hein, elle ne pouvait même pas se consoler avec mon frère jumeau parce que c'était un saint. Mais une chose que j'ai remarqué, que j'ai trouvé relativement bizarre, c'est que après, si bien, si correcte, etc. qu'elles soient, elles faisaient tas de bêtises après. Autrement dit, elles essayaient de retrouver elles se mettaient dans des fixations d'impossible, quoi. Puisque elles s'étaient confrontées à quelque chose qui finalement s'était révélé une fixation, qui s'était révélée échouante, si vous voulez. Après, elle se précipitait résolument, tout de suite après, et même sur des fixations de l'impossible, sur des types qui ne pouvaient pas marcher, quoi. Et alors, c'est une espèce de cascade, parce qu'il faut renouveler cet instant d'échec. Parce que l'instant d'échec, en le renouvelant dans une circonstance analogique ultérieure, me permet de revenir à cet état dans lequel j'étais, où j'ai assumé cet échec résolument et librement, pour le faire revenir à travers un nouvel événement analogique, de manière à, peut-être, il y a un appel profond de l'âme qui demande à revivre cet événement analogique, mais sous un autre mode, qui est un mode du pardon. Donc il y a un retour à un événement d'échec. Je ne sais pas comment dire, c'est difficile à expliquer tout ça, mais... Donc il y a des événements analogiques. Dans les ménages, par exemple, il y a un pardon qui n'a pas été donné. Et donc, du coup, des agressivités. Et du coup, on va se retrouver sans arrêt dans des événements analogiques correspondants. On va se mettre dans des situations où on va se griffer. Pourquoi ? Pas parce qu'on veut se griffer maintenant, mais parce qu'on se réfère à un événement analogique primitif qui n'a pas été résolu. Et on n'a pas fait le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas pardonné. C'est uniquement à cause de ça. Et donc, quelque part, on revient dans un contexte où, qui fait que, bon, ben, il y a une agressivité qui revient, et des circonstances, une atmosphère analogique, de manière à ce qu'il y a un appel tout le temps à revenir sur le lieu, l'origine de cette mort que je porte encore en moi. Donc, je n'ai pas fait le travail de deuil, quelque part. Donc, c'était ça, hein. La guérison de la mémoire, c'est de constater que les événements qui paraissent des événements hasardeux. Je rencontre dans la rue quelqu'un comme ça me paraît venir complètement du hasard, et en réalité, non. En réalité, Il y a un phénomène très très curieux, et c'est ce qu'on appelle les circonstances analogiques. C'est cette espèce de retour tout le temps à vouloir retrouver la source de vie. Mais la source de vie, elle est derrière le deuil que je n'ai pas encore fait. Et donc il faut retrouver une circonstance analogique de mort par rapport à des morts que j'ai vécues, et donc pardon qui n'ont pas été donnés. Voilà, bon, ça c'était le sujet donc des fois précédentes. Alors évidemment, parmi les circonstances analogiques, il y a le phénomène donc de la mémoire et de la relation. On est cette première étape où on essaie de revenir à cette prise de conscience, qui habituellement n'est pas difficile à faire, je pense, mais elle demande quand même un minimum de temps et de disponibilité spirituelle. C'est pour ça que je vous avais dit que la première étape du travail de deuil, donc c'est cette prise de conscience pour voir que ne pas tout mélanger ce que je vis, ce que je fais, ce que j'ai fait et mon identité. Je ne dois pas résoudre un acte que j'ai posé, et qui était un acte d'échec, avec ce que je suis. Je ne suis pas un échec. Et c'est cette première prise de conscience où je comprends que je suis un saint, que je l'ai toujours été, que je suis dans la main de Dieu, que Dieu me crée à son image et à sa ressemblance, et je retrouve cette image et cette ressemblance de sorte que se dissocie dans ma vision de moi-même et dans mes vibrations, j'allais dire, dans ces cris qui viennent du fond de moi-même, de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Je fais petit à petit cette dissociation claire entre la sainteté qui ne m'a jamais quitté, cette identité pure, cet élan, cette soif, cette immaculation, ce visage d'homme qui est le mien, qui est un visage d'amour, de lumière et d'éternité, cette possibilité d'être créateur d'éternité à travers mon corps physique humain, qui est toujours là. Et je dissocie cela des actes que j'ai posés et de l'échec auquel je suis confronté et qui a pénétré dans mon psychique, dans mon âme. Les actes que j'ai posés sont peut-être quelquefois des actes d'échec, des actes de mort, mais elles n'ont rien à voir avec ce que je suis. Rien à voir avec mon visage métaphysique et corporel, avec mon identité de personne, avec, et justement, ces événements et ces actes imparfaits révèlent à mon cœur spirituel mon vrai visage, qui est ce visage de sainteté. Parce que la sainteté ne se bâtit pas sur le bien. La sainteté se bâtit sur la chute. La sainteté se bâtit sur les failles. La sainteté se bâtit à partir du noir qui est en nous, à partir des ténèbres, à partir de l'obscurité. La sainteté ne vient pas dans les zones en moi qui n'ont pas été torturées par le mal, éclaboussées par le mal, changées en mal. C'est à partir de ce qui est au contraire abîme de ténèbres en moi, fissure en moi, que la sainteté va apparaître. C'est dans cet abîme-là que la sainteté du Christ va remplacer, bétonner. En tout cas, je fais la différence entre ce que je suis. Je suis appel, abîme d'amour et réceptivité par rapport à la gloire même du Très-Haut, la sainteté toute pure et Dieu seul est saint. Les échecs sont là, j'allais dire, pour ouvrir à ma sensibilité cet appel, cette capacité de réceptivité de l'amour saint, pur, éternel, ineffaçable. La grâce de Dieu. Donc je fais la distinction, et c'est ça la première étape, entre ce que je suis et les actes que j'ai posés. Les actes que j'ai posés ne disent absolument rien de ce que je suis. Et le fruit des actes que j'ai posés, qui sont des fruits de mort, sont des fruits que je peux reprendre, du coup, à partir de cette force qui est en moi et qui vient du fait que Dieu me voit, me regarde et fait que j'existe. Et il m'aime beaucoup plus, infiniment plus à travers ça, dans une sainteté qui est appelée à se centupler grâce à cette confrontation à la mort. Et donc Dieu m'en aime beaucoup que plus. Et à partir de cet amour de Dieu, l'Esprit Saint me montre comment je dois faire le travail de deuil. Je dois prendre à pleine main cette mort, mais non pas dans ses conséquences analogiques ultérieures, mais dans sa racine. Ça va ? Voilà, c'est un petit résumé très simple, peut-être, ou très compliqué, comme vous voulez, de ce que nous avons vu les fois précédentes. Donc respectons bien dans le travail de deuil les 12 étapes que nous avons vues. Ça, c'est très important, je crois, lorsqu'on a un vrai travail de deuil à faire, si vraiment on veut aller jusqu'au bout du point de vue spirituel et psychique. Ça, je reconnais que c'est un travail de guérison et spirituel et psychologique. Ce n'est pas un commandement. Bon Dieu ne nous a pas demandé de faire un travail de deuil pour une guérison psychospirituelle. Il nous a demandé de faire un travail de conversion pour notre vie spirituelle incarnée. Mais c'est vrai que c'est désagréable de porter tout le temps dans notre psychisme la marque d'une blessure de la mémoire. Et c'est pas mauvais, si c'est possible, de rentrer dans une guérison de la mémoire psychologique, sensible. Parce que nous, quand même, c'est pesant. Donc ce travail de deuil, eh ben, c'est bien peut-être d'essayer de voir si on ne peut pas le faire pour nous-mêmes. C'est bien de prendre par exemple un mois, 33 jours par exemple. 33 jours en disant, voilà, je vais faire tout un travail de deuil sur les principales failles de mort qui sont en moi. Et puis respecter ce cheminement qui nous est donné tout simplement par le bon sens, la prière, le cheminement spirituel, du travail de guérison, de la grâce qui vient colmater, guérir et mettre la résurrection où la mort domine. Mais dans l'aspect psychique de notre âme. Vous savez que le travail de la foi, le travail humain, c'est de faire en sorte que ce soit le point de vue spirituel, pneumatique de notre âme, qui soit toujours réveillé. Donc ça, si vous voulez, c'est secondaire. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne ferait plus de PPP. C'est bien de le faire une fois pour voir que c'est possible et que la guérison de la grâce peut pénétrer jusque dans le point de vue animal et sensible et psychique qui est en nous. Et heureusement. Voilà. Mais, voilà. Alors, voyons un petit peu. Donc, vous sentez bien que la première étape, c'est une étape tellement importante de la prise de conscience. Pour séparer la distinction donc, entre moi, ce que je suis, mon identité réelle, mon vrai visage et les actes que j'ai posés, c'est pas la même chose. Si je fais l'identité entre les deux, j'assimile ce que je suis et les actes que j'ai faits. Moi, voilà ce que je suis un salaud. Et ceci, c'est une erreur de l'intelligence, c'est une mort de la volonté, c'est-à-dire du cœur profond, et c'est un oubli de la mémoire que de dire ça. Finalement, voilà ce que je suis un salaud, je suis un menteur, je suis un traître. Eh bien, ça n'est pas vrai. Et quelquefois, lorsque on me refuse de faire un travail de deuil, eh bien, on exprime la chose comme ça, à soi-même. Tu te regardes dans la glace et tu dis vraiment que... Ça, c'est le signe que je refuse de faire ce travail de deuil et que je désire renouveler quelque part, me renouveler dans ce que je ne suis pas, c'est-à-dire dans ce que je ne veux pas être, dans ce que je ne suis pas, dans des actes qui, finalement, ne sont que des accidents. Parce qu'on en réalise l'horreur après, à bien regarder. Alors, le sentiment de culpabilité, pour qu'il ne domine plus, mais pour que domine l'amour, le cœur qui saigne, l'extase et la création d'éternité, alors à ce moment-là, on revient à la réalité. Et c'est ça le travail de deuil. Je recommence à vivre, mais c'est moi qui vis. Grâce à ces blessures, et j'accepte de faire ce travail de deuil. Et je demande à l'Esprit Saint de me montrer la sainteté qui est la mienne et qui ne m'a jamais quitté. Et que Dieu est là. Et à partir de là, je fais la différence et je vois en face les actes que j'ai commis. J'en vois, bien sûr, la profondeur, l'ennui. Mais je vois à quel point c'est différent de ce. C'est pas la même chose que moi. Et je vais pouvoir faire le travail, du coup, parce que je ne suis pas assimilé à l'acte de mort auquel je suis confronté, j'en suis séparé, c'est distinct, et du coup je peux faire ce travail de deuil et faire ce travail de transformation. Ça va? Alors parmi les événements analogiques, pour déterminer les racines amères profondes, il y a plusieurs possibilités, bien sûr, de faire un travail analogique. Je vous l'ai déjà dit, et on en a déjà parlé sur cette première étape et deuxième étape de la prise de conscience. Donc, toujours se rappeler qu'il vaut mieux faire oraison d'abord. Hein. et que l'oraison, c'est à l'intérieur de l'oraison, quand l'Esprit Saint est là, qu'à ce moment-là, ça devient évident que ce que je suis est la mort que j'appelle tout le temps par l'instinct de mes actes, des circonstances analogiques, sont des choses distinctes. Donc, vous voyez, pour avoir cette clarté. Mais je peux m'aider aussi de choses qui sont relativement évidentes. C'est qu'il y a les blessures qui sont en moi sont en rapport à des choses qui se sont cassées dans mes relations d'amour d'origine, dans mes relations d'amour, dans mes racines. Mes racines, c'est la relation première que j'ai eue dans l'amour, quand il a été possible, avec ma mère, avec mon père, avec moi-même. Et c'est vrai que c'est souvent des choses qui relèvent de la période embryonnaire. Et donc cette relation avec moi-même, cette relation avec la maternité, la paternité, et cette relation avec l'altérité vont dire quelque chose de ce qui s'est passé en moi personnellement dans ces relations primitives cassées. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est intéressant de regarder donc les équivalents paternels, les équivalents maternels. Il faut les connaître et puis on va essayer de commenter ça. Je vous donne par amour pour vous, par affection pour vous, je vous laisse ce tableau que vous pouvez garder. On va lire ça. Et donc, essayez à travers ces relations analogiques, c'est des choses que vous savez, je pense, dans le temps, parce qu'on en a déjà parlé, mais on va le relire, on va reparler de ça tranquillement. Il s'agit de découvrir, au fond, qui nous sommes à l'intérieur des relations d'amour qui sont les nôtres. C'est à travers ces relations, donc, on va essayer de revenir à notre « je suis ». Lequel « je suis », il est dans le « je suis » de Dieu. Une manière très belle de faire coopérer nos blessures à l'acte d'adoration. À travers ces relations d'amour qui sont les nôtres, ces relations vitales, ces relations personnelles qui sont les nôtres, revenir à notre « je suis », lequel « je suis » se trouve dans le « je suis » du Christ. « Je suis la résurrection ». Et Jésus, il est évident que là où il ne nous quitte pas, c'est dans nos blessures et nos plus grandes pauvretés. C'est là où notre mort s'acclimate à un désir, à une soif et à un cri de l'enfant dans le désert, qui est le cri du Christ qui attend la résurrection des pécheurs. Et là, il y a une présence réelle dans toute souffrance qui touche le point de vue, qui touche jusqu'au point de vue de l'identité de l'être, il y a une présence réelle du Christ. Donc, dans une relation de filialité, d'abord, premier type de relation, on va découvrir, essayer de découvrir notre identité personnelle. Nous avons été créés dans notre je suis initial, soif d'amour, soif d'être, soif d'actuation, soif de simplicité, soif d'identité, soif de transparence, soif de grâce. Tout ce je suis qui nous constitue nous-mêmes dans notre origine et qui fait, j'allais dire, notre identité permanente et continuelle, on va essayer de la découvrir dans la filiation. Parce qu'en effet, le jour de notre création, c'est-à-dire le jour d'aujourd'hui, qui est encore le jour de notre création, quelque part, eh bien, nous sommes venus d'un Père, nous sommes venus de Dieu. Et donc, nous sommes fils. J'allais dire, la constitution du corps et de l'âme, j'allais dire, est typiquement une création de filiation. Je suis métaphysiquement filiation. C'est ça que Dieu est comme mon créateur. Hein. Et donc, retrouver à travers les équivalents où la filialité se retrouve, ma filiation, mon identité personnelle. Oui. Et donc, regardez que cette filiation, on pourrait considérer qu'elle a plusieurs étages, si je puis dire. C'est bien, hein, c'est toujours prendre les étages d'une maison. Vous savez, on prend zone 4, zone 3, zone 1, dans zone 1, zone 3, zone 2, zone 1. Mais ça, c'était impossible. L'étage, c'est mieux. La maison se construit sur du sable, elle se construit sur du roc. Et ordinairement, Jésus ne prend pas le métaphorisme de la cible. Il prend plutôt le symbole de la maison, c'est vrai, pour regarder quelle est l'identité de quelqu'un. Alors, les fondations d'une maison, la fondation de notre identité, elle est structurée par cette découverte que nous sommes fils ou filles, et bien de notre mère, de notre père. C'est les fondements. Cette prise de conscience, il faut savoir qu'elle a lieu à peu près à l'âge de 9 mois. Jusqu'à l'âge de 9 mois, on est totalement identifié dans notre perception de conscience de notre identité à l'identité de la mère. Et cette première découverte psychologique de notre identité de fils ou de fille se fait vers l'âge de 9 mois. Finalement, quand même, du point de vue spirituel, les racines de notre filiation sont portées par notre corps, non pas à bien avant, depuis la conception jusqu'à cet âge de 9 mois, n'est-ce pas ? Donc il faut savoir faire cette petite différence entre la conscience psychologique que nous avons d'être fils, d'être fille, d'être différent, d'être quelqu'un de séparé et différent de notre mère et de notre père, tout en reconnaissant leur origine. Ça, psychologiquement, on s'en rend compte à 9 mois. Mais sinon, spirituellement ou corporellement, ou dans notre mémoire ontologique et spirituelle, on s'en rend compte dès la conception. Donc c'est la première chose. C'est le double fondement. Donc les fondations, c'est la découverte psychologique, et le roc sur lequel est bâtie notre identité, c'est la mémoire ontologique. Et ceci, elle est dès le premier instant de la conception. Et c'est parce que donc cette première fondation est là, et qu'elle est toujours là, que va pouvoir s'établir et se construire la maison, donc elle-même, où on va pouvoir habiter toute notre vie. Donc le rez-de-chaussée, qui se bâtit sur cette fondation, cette impression, cette certitude, cette nette, claire et nette conscience que nous sommes fils, que nous sommes venus d'un père, d'une mère, que nous sommes venus de Dieu, que nous sommes venus d'un père et d'une mère, ça c'est à 9 mois, que nous sommes venus de Dieu, notre père, c'est la mémoire ontologique. Alors, on va construire d'abord le niveau inférieur. Le niveau inférieur, qui est le rez-de-chaussée, où on rentre ordinairement en revenant du monde, de nos préoccupations, et on se retrouve avec soi-même, c'est le fait que je vais réaliser que je suis un homme. On passe de ce fait que je suis un être humain. Je suis un être humain, je suis un homme, je suis une femme. De réaliser, si vous voulez, la dignité tout à fait particulière, tout à fait propre du fait que je suis homme et que je ne suis pas femme. Ou que je suis femme et que je ne suis pas homme, selon les cas, n'est-ce pas ? Et le niveau supérieur, le premier étage, c'est de voir que, à partir de cette humanité, dans sa signification spontanée, je suis appelé à me donner en tant qu'époux, à me donner en tant qu'épouse. Donc cette responsabilité, ça c'est le premier étage, cette découverte que je suis faite pour un autre que moi. Que je suis, même si je ne le connais pas. Le petit gosse qui, à l'âge de 7 ans, donc réalise par exemple qu'il sera, qu'il est prêt. Petit gosse de 7 ans qui réalise ça, eh bien, il découvre cette dimension spontanée. C'est le premier étage. La petite fille qui, dans la pureté, c'est la pureté extraordinaire de sa prière, découvre qu'un jour, elle obéit à la loi éternelle, elle rentre dans un acte de gratuité, uniquement pour rentrer dans l'éternité et la création d'amour gratuit. Elle réalise à ce moment-là, un jour, qu'elle est faite pour être épouse, et elle sait qu'elle sera l'épouse. Et déjà, elle appartient déjà à son époux, qu'elle rencontrera 20 ans plus tard, possible. Mais déjà, elle est mariée avec lui. Elle se découvre comme épouse. C'est vers l'âge de 7-8 ans, souvent, n'est-ce pas ? C'est évident. Hein ? Et vous savez bien que le fait d'être la prise de conscience de l'être humain en tant que tel, c'est ce qu'on appelle l'âge de raison, est un petit peu antérieur, ordinairement, vers l'âge de 4 ans, 5 ans. Ça, au plan psychologique. Mais je vous rappelle que sur le plan spirituel, c'est dès la conception que nous avons, sur le plan de la mémoire ontologique, c'est dès la conception que nous avons cette connaissance. C'est la partie animale de notre perception, qui, donc vitale, si vous préférez, de notre perception, qui vient s'unifier à notre mémoire ontologique dans ces périodes-là. Voilà les trois étages de la prise d'identité en tant que nous sommes fils, fille. Et souvent, il faut revenir, donc, vous sentez bien, travail de deuil, à ces étapes-là, qui, ordinairement, on s'en rappelle tous, plus ou moins. Et si on ne s'en rappelle pas, on demande à l'Esprit Saint de nous y remettre. Ça, c'est permanent, ça reste, comme une source. Il ne faut pas partir, repartir en disant « Ah, je vais refaire une nouvelle vie. » Souvent, les gens comme ça qui font, qui pensent « Bon, ben, il y a eu un échec, bon, je vais en souffrir un peu, je vais faire le travail d'acceptation, de résignation, et puis à partir de ce moment-là, je vais me refaire une vie, quoi. » Comment est-ce qu'on dit l'expression, comment est-ce qu'on dit, moi je sais pas, moi c'est très modeste, Je vais refaire ma vie, quoi. C'est ça, je vais refaire ma vie. Alors vous refaites votre vie à partir d'un échec, d'une mort, qui n'est absolument pas résolue. Vous partez de là. Vous ne revenez pas à votre identité, vous ne revenez pas à votre vocation découverte de fils d'homme ou de femme, vous ne revenez pas à cette vocation d'époux et d'épouse que vous aviez à l'âge de 6-7 ans, la première fois que vous avez fait l'expérience d'un amour spirituel, de création, d'éternité, gratuit. Il faut revenir à cette source. Et c'est un homme, c'est quelqu'un qui est capable de revenir à sa source. C'est quelqu'un qui est capable de revenir, de remonter le courant et de revenir à la source. C'est ce que disait Peggy. Le courant est contraire, c'est bien évident que le courant est contraire. Le courant nous pousse à ne pas revenir à la source. Il faut qu'on rame, c'est ça le travail de Terry. Il faut qu'on rame. Mais si on ne rame pas pour revenir à cette source de la filiation, eh bien on va exactement à la même allure que les cadavres. Les cadavres, vous mettez à côté du bateau, ils vont dans le même sens que les cadavres, et vous venez exactement à la même vitesse. Et donc si c'est pour ça, pour vous, c'est ça, refaire ma vie, eh bien je vous plains, n'est-ce pas? Ça c'est Peggy qui dit ça. Donc vous connaissez cette expression, il faut toujours se rappeler. Donc la relation d'homme ou de femme finalement se construit sur cette fête de la filialité. C'est là que vous comprenez que le fait que vous êtes époux et épouse, c'est lié au premier étage, le premier étage est bâti sur le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est que vous découvrez que vous êtes un être humain masculin ou féminin. Et que cette fête d'être homme ou femme que vous découvrez, que vous avez découvert et que vous ne cessez de découvrir dans votre source intérieure, elle se bâtit sur la filiation. Donc la filiation, c'est vraiment le plus fondamental. Donc cette racine de filiation, elle est de la conception jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce qu'il y a de plus fondamental, c'est ça que je dois retrouver. Donc alors, tout à fait au-dessus, la toiture, le grenier. C'est le point de vue de la maternité et de la paternité. La maternité et la paternité se construisent au bout d'un certain temps sur ce fait que je vois que je suis source d'autres êtres humains, d'autres vies humaines. Et je vais voir que l'homme, s'il est père, s'il est mère spirituellement et humainement parlant, ça se bâtit sur ces deux étages dont nous venons de parler, mais à ce moment-là, c'est possible pour lui d'être père ou mère humainement parlant, c'est-à-dire selon le cœur de Dieu. La paternité et la maternité qui ne se bâtit pas sur une filiation profonde n'est plus une paternité, une maternité humaine. Donc si vous refusez quelque part d'être fils du Père, du Créateur, vous ne pouvez pas être père ou mère humainement parlant. Et votre paternité, votre maternité, j'allais dire humaine, sont une paternité et une maternité qui ont un visage quelque part, mais qui n'est qu'un visage matériel. Voilà, c'est une paternité et une maternité que le pape appelle irresponsable. Ce n'est pas une vraie paternité et une vraie maternité humaine. Pourquoi ? Parce que Dieu est père, Dieu est mère, et comme je suis fils, et je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est comme lui que je suis père et mère, parce que c'est qu'un être humain. Et c'est la toiture, c'est le grenier. Donc si la fondation est fissurée, on peut, c'est évident, avoir un rez-de-chaussée à peu près correct. c'est masculin, c'est féminin, homme ou femme. Hein? Ça, c'est évident. Mais au premier étage, déjà, ça commencera à être branlant. L'époux, l'épouse, n'est-ce pas, ce sera branlant. Et à la toiture, n'en parlons pas. Hein? Moins de preuves. Donc notre responsabilité vitale, notre fécondité humaine, alors là, ce sera mon mal donc à être père ou mère qui me fera le plus défaut. Et donc là, lorsque les choses vont mal, parce que j'arrive mal à enfanter spirituellement mes enfants, à enfanter divinement mes enfants, tac, clignent en rouge, oui, il faut peut-être que je revienne faire ce travail de deuil et redescendre jusqu'à l'authenticité de ma relation dans cette, comme filiation, comme être de filiation, comme fils, comme fille. Il faut donc revenir là. Pas essayer de colmater, de bétonner, etc. Tout ce qui est construit maison, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Donc tout repose sur la filiation. Et puis le terminal de tout, c'est la toiture, c'est la paternité. Et évidemment, l'intermédiaire entre les deux, c'est la responsabilité. Voilà, donc nous avons un joli schéma. Eh bien, il faut qu'on invite le Seigneur dans notre maison. Comme le grand architecte, le grand habitant, le grand ami, le jumeau, pour visiter notre maison et voir où est-ce que l'étage ne fonctionne pas, où est-ce que la fondation ne fonctionne pas. Et la vie d'amour, de relation avec le Seigneur, de faire rentrer en nous le Seigneur, et de permettre qu'il rentre concrètement en nous. Alors, le Seigneur est présent dans cette charité fraternelle. La charité fraternelle, la vie communautaire, va permettre la confrontation avec les autres, mais dans une présence spirituelle du Christ au milieu de nous, va permettre au Seigneur de vraiment rentrer dans notre maison. Comment est-ce que le Seigneur va rentrer dans notre maison ? C'est à travers les relations d'amour qu'on va avoir dans le Seigneur avec les autres. Énormément de choses vont se réveiller si je vais à cette paroisse. Je n'ai pas envie d'aller à cette paroisse. Énormément de choses vont se réveiller parce que dans cette paroisse, les gens, ils y vont parce qu'ils aiment Jésus quand même, qu'on le veuille ou non. Ils ont l'air cons, c'est d'accord. C'est chiant, c'est entendu. Mais pourquoi est-ce que c'est chiant ? C'est chiant parce que je n'ai pas envie qu'on vienne visiter mes fondations, qu'on vienne visiter ma maison, qu'on vienne visiter l'état de ma sponsalité, de ma maternité, de ma paternité, et puis de mon identité. J'ai pas du tout envie. Or, les relations fraternelles vont être le moyen à travers lequel le Seigneur va pouvoir rentrer dans ma maison et voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mes fondations, dans mon premier étage, dans mon rez-de-chaussée ou dans mon grenier. Et ces relations fraternelles qui vont aider à ça. Donc, il faut inviter le Seigneur dans ma maison. Et le moyen du Seigneur pour bien voir où est-ce que mes fondations sont en souffrance, c'est la vie fraternelle. C'est ça le grand moyen, donc, du Seigneur. Alors, dès que je rentre dans une espèce de communauté fraternelle, je dis, oh, celui-là, qu'est-ce qu'il est cucu ? Ah, celui-là, j'ai pas envie de devenir comme ça, les chrétiens, les cathos, machin. Ah, c'est pas le pied, tout ça. Bon, ah, celui-là, mystico-dingo. Ah, celui-là, qu'est-ce qu'il est étouffant. Ah, celui-là, qu'est-ce qu'il est pénible. Celui-là, qu'est-ce qu'il est. Etc., etc. Bon, ah, et puis qu'est-ce que je m'embête ici. ne me dites pas que ici, non. Ici, ça se fait. Il y a toutes ces réactions. On a des réactions différentes. Vous voyez, ça, c'est des réactions de type différent, ce que je viens de vous dire là. Ah, soyons attentifs à ce type de réaction que j'ai. Parce qu'ils disent quelque chose sur le lieu de mes fondations qui est branlant. N'est-ce pas ? Vous voyez, par exemple, je dis j'ai un problème avec un tel. Voilà, j'ai un problème avec le père Patrick. Bon, ça, bon, d'accord, ça c'est. Bon, c'est normal, ça tient pas à vous, ça tient à moi. Bon, donc on va prendre un autre exemple. J'ai un problème avec Charlotte. Hein. Ça, c'est pas normal. Ça. Hein. Alors, si j'ai un problème avec Charlotte, je dois me poser la question, vous comprenez? Parce que c'est dans une fosse fraternelle, on fait chacun ce qu'on peut. Bon, j'ai un problème avec Charlotte, et bien qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que j'ai un problème avec Charlotte? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, vous voyez, les relations fraternelles dans une communauté, si on essaie d'être éveillé, c'est-à-dire prier ensemble, alors on est libre par rapport à ça, c'est pas tabou, on prie ensemble, on est d'accord. C'est pas tabou de rendre service, non. C'est pas tabou d'écouter l'enseignement du Saint-Père. C'est pas tabou de dire, pour nous, le pape, c'est bon. Si je dis ça à l'extérieur, c'est tabou. T'as pas le droit de dire que le pape, c'est super. Mais ici on peut. Ici, on est libre. C'est-à-dire, ici, on est libre de dire, bon, il y a un Judas dans l'église. Et c'est bien Judas. Il faut pas le dire à la télé. Vaut mieux pas, parce que... Le mystère de Judas, c'est clair. Bon. Mais ici, on a des relations fraternelles libres, parce qu'on est d'accord de prier ensemble, on est d'accord que la vérité du Christ révélée nous est communiquée par la Sainte Église, parce que c'est Jésus qui a voulu que ce soit communiqué jusqu'à la fin du monde, infailliblement, sans aucune trace d'erreur. C'est la seule promesse que le Christ ait faite à l'humanité, la seule, par rapport aux institutions et à la communauté humaine. Il a fait d'autres promesses, hein, mais par rapport aux institutions... Donc d'éternité, ça c'est autre chose. Donc ici on est libre. On est libre de dire, ouais, d'accord, on veut bien recevoir ça. Bon. Alors, de sorte que les relations fraternelles vont être très parlantes. Parce que si je suis ennuyé par telle personne, c'est pas par hasard. Bon. Et la réaction qu'elle produit en moi, d'étouffement, d'écrasement, de dire, ça te rappelle, c'est... Mais elle est étouffante celle-là, elle te lâche pas une semaine, là. Ça te rappelle quoi? Ça te rappelle peut-être, je sais pas, hein, une mère captative, c'est épouvantable, ça. Tu supportes pas. Et l'autre, il s'en fiche complètement, il dit, mais non, j'en suis. Alors, mes relations sont de trois types. Premièrement, il y a des relations avec les personnes qui ont autorité sur moi. Il y a les relations avec celles qui sont des frères ou des sœurs, c'est des relations d'égal à égal, des relations de fraternage. Et puis, il y a les gens qui sont plus petits que moi, je suis leur aîné, je peux les aider, et effectivement, je peux leur faire du bien. Je peux les aider. Vous voyez? Donc, j'ai des relations de pratique. Avec les gens qui ont autorité sur moi. Les éducateurs, l'équipe, les enseignants, ceux qui me donnent la bénédiction, pour être donc les prêtres. Ils m'éveillent, eux, à cette relation de filialité. Et ce qu'ils réveillent, en m'agressant ou en blessant, ce sera un signal sur l'état de branlant de ma filialité personnelle. Vous voyez ? Alors, est-ce que ça va provoquer, la relation avec eux, provoque plutôt de la peur, plutôt de la révolte, plutôt de la tristesse, plutôt de la jalousie, plutôt de la convoitise, plutôt de la joie ou de la paix, plutôt de l'angoisse, plutôt de l'amertume, plutôt de l'agressivité? Il faut repérer le type de sentiment et d'émotion qui est réveillé au type du contact vital avec cette relation, quelqu'un qui, finalement, a autorité. Bon, Léone, par exemple, ici, pour beaucoup, elle a autorité. Qu'est-ce que ça réveille? Ou moi aussi, puisque j'enseigne. Bon, par exemple, Geneviève, quand elle va nous faire le partage d'évangile, elle aura, quelque part, elle sera l'aînée. Non. Pourquoi vous réagissez comme ça? Alors, bon, pourquoi vous réagissez comme ça? Et non, troisième type de relation. Attendez, je vous attends au tournant. Non, on est là. Non, mais ce sera une relation quelque part.
Partage.
Oui, mais enfin, vous comprenez bien.
Oui, je comprends quand même.
Vous voyez la différence de réaction qu'elle a quand elle est dans le troisième type de relation et par rapport au premier type. Là, ici, quand je lui dis, mais pourquoi? C'est la relation de premier type, c'est moi qui ai l'autorité. Et lorsque je disais, elle va faire partage l'évangile, elle aurait été sur vous, elle n'a pas du tout la même émotion. Et la deuxième, oui. C'est extraordinaire, les émotions sont différentes, vous voyez bien. C'est marrant ça, mais petit à petit, être attentif à ça, vous voyez. Dans une communauté, être attentif à ça. C'est un peu ça, hein, qu'il faut regarder. Donc les gens qui sont d'égal à égal par rapport à nous-mêmes, par exemple mon collège apostolique est là, et bon, ils ont des relations entre eux. Bon, très bien. Les apôtres entre eux, par exemple, vous voyez. Les disciples entre eux. Bon, ils vont me dire quelque chose, eux, de mon identité. Donc, le premier type de relation va me dire quelque chose à propos de la filialité. Le deuxième type de relation va me dire quelque chose à propos de mon identité. Le troisième type de relation va me dire quelque chose sur le grenier. Sur le grenier de toiture. C'est mon grenier qui est branlant. Pourquoi ? Parce que dans ces relations-là vont s'éveiller des émotions. Vont s'éveiller des émotions. Ce ne sera pas les mêmes émotions. Selon les blessures que nous avons subies, les pardons qui n'ont pas été faits, les résurrections que je n'ai pas voulu accepter de faire passer encore en moi. Et donc, il va falloir regarder ça. Et grâce à ça, ces émotions, si c'est par exemple la peur, la révolte, l'agressivité qui apparaît, ou la colère, ou l'amertume, eh bien, ça va donc révéler où sont les deuils non accomplis. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, moi, ça va très bien. Moi, tout va bien. Moi, j'ai aucun deuil à faire. Moi, je... Si tout le monde était comme moi, il n'y aurait pas la guerre. Hein. L'humanité serait comme ça si tout le monde était comme moi. Moi, c'est mon père, il dit toujours ça. Non, mon père disait pas ça, on disait à papa, à la maison, là. Il y avait ma mère, qui était... Et puis, il y avait mon père, et mon père revenait du travail, il y avait sa narine qui grossissait comme ça, parce qu'il n'avait pas pu regarder les informations, et ma mère s'arrangeait toujours pour passer à table à 8 heures. Juste les informations, comme d'habitude. Papa! Ah, la narine qui pousse, un repas charmant. Moi? Pas du tout. La dénégation, vous savez, moi, pas du tout. Bon, ça va très bien. Ça va très très bien. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on se marrait à table? Et si on bougeait, hein, fais gaffe, parce que s'il y avait la narine, si on bougeait, il disait, donne ta main! Ah, alors, tu donnais ta main, il prenait la baguette. Il prenait la scie à pain, et bang! Et on dit, ah, papa, vous n'avez pas la foi. Quand vous voyez, papa, hein, vous voyez maman aussi. Hein. Relation d'autorité, les fondations. Il faut qu'on redevienne les petits-enfants. L'enfant qui fait jaillir des émotions avec des équivalents paternels ou maternels. C'est quand même assez intéressant, ça. D'accepter de revenir au fond dans l'église, accepter d'aller voir à la sortie de l'église le curé, de voir la réaction que j'ai quand il fait son sermon insipide. D'aller voir la réaction que j'ai au moment où il donne la bénédiction finale. Avec sa gueule enfarinée. Et je crois qu'on se dit, bébé tard, vraiment, il est pas viril, lui, hein. Heureusement qu'il est curé, parce que sinon, je suis sa femme. Écoutez, et votre évêque, dites-moi. Voilà. Bon. Et votre berger de la communauté, là, votre... Hein? Et votre président, vous l'aimez? Ah, la réaction des émotions, troisième type de relation. C'est curieux, comme on accepte peut-être encore aujourd'hui volontiers de redevenir fils, mais comme on a du mal à accepter d'être père et mère, Alors, ça prouve que notre filiation est branlante quand même, hein? Mais on en perçoit les vibrations là-haut. Eh ouais. Peut-être que je n'ai pas envie de me faire enseigner, parce que si je me fais enseigner, si je me fais enseigner par le pape, peut-être que du coup, après, bah, au Vatican, je deviens père par rapport à d'autres. Hein. Ah, finalement, je n'ai pas tellement envie. Et le refus de la doctrine, ça vient peut-être de là aussi. Le refus d'être source de vérité, de création, de lumière éternelle. Votre directeur spirituel, le prieur ou le père abbé de la communauté de laquelle vous dépendez, du père Carme, là, c'est le black Carme, hein. Alors vous avez quoi comme relation? Ah, vous voulez bien être la maman du père Irénée, ça d'accord. Hein? Pour faire le père Irénée, c'est le prieur de mon prieur de Cotignac. Alors moi je veux bien être sa maman, le protéger, prier pour lui, faire que vraiment... Mais lui, mon prieur, faut pas rigoler. Je sais pas comment dire, il y a... Oui, oui. Donc, votre aîné dans une communauté de prière, dans une réunion de prière, oui, votre aîné, quelqu'un qui est votre aîné, puis qui vous aide, qui vous accompagne, votre parrain, quoi, votre marraine, votre patron d'usine, votre chef de service, hein? Vous aimez bien d'être avec là, vous aimez l'écouter, vous aimez rentrer dans un moment où il vous a dit ça, donc ah oui, super, je vais faire ce qu'il m'a dit. Ou bien, il m'a dit ça, il me fait essayer, il a toujours à mettre son nez où il ne regarde pas. D'abord, il est payé 2000 balles de plus que moi, alors qu'il la ferme, puis c'est tout. Voilà, c'est ça, être chef de service. Mais moi, ça n'a rien à voir avec lui. Ou bien, j'aime de rentrer dans une obéissance intérieure en disant, il me dit ça, c'est super, je vais le faire. Quel type de relation j'ai avec quelqu'un qui a autorité sur moi dans le travail, ou mon enseignant, quelqu'un qui m'enseigne, quelqu'un qui... Ah ouais, ici, par exemple, on essaye de faire une recherche ensemble de la vérité, mais il y a quand même quelqu'un qui enseigne un petit peu, quoi. Moi-même, d'ailleurs, je ne l'ai pas inventé, vous voyez, il a bien fallu que je prenne des notes. Et je recrache mal ce que j'ai assimilé à peu près mal aussi. Mais ça fait rien, je transmets autant que je peux. Le mieux possible, parce que je ne suis pas un spécialiste hein, du moins du psy et machin. Et quelquefois aussi, les relations que j'ai avec mon époux, parce que mon époux, il a autorité sur moi, mon époux, mon mari. Mon mari a autorité sur moi. Ah ouais? Alors... J'ai envie qu'il obéisse à ce que je vis, ou bien j'ai envie moi d'obéir à mon époux. C'est ça son désir, et je vais correspondre à son désir, c'est ça obéir. Je vais devancer son désir, ou bien non. Moi je voudrais que ce que je vis, et qui est quand même beaucoup plus riche que ce qu'il se vit, cette espèce de pauvre imbécile, il puisse le vivre. Alors, je refuse l'époux, me recevoir de l'époux, souvent. Parce que, vous voyez bien, au début, quand on se rencontre, hein, un jeune fille ou une jeune femme, ou une femme adulte, c'est vrai, rencontre quelqu'un, ils s'entendent ensemble, ils commencent à bien s'aimer, ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'au début, la relation entre, sensale entre l'homme et la femme met une plus grande proximité, il y a une plus grande proximité avec la découverte nouvelle de cette femme, avec la mère. Souvent, la fille est émue parce qu'elle se rend compte qu'elle fait du bien, elle materne. Elle fait du bien, elle ressuscite un petit peu ce jeune homme. Puis en plus, elle découvre qu'il est bien finalement. Elle est la seule à le voir, la profondeur de ce garçon. Alors elle est mère, quoi. Mais au bout d'un certain temps, c'est au bout d'un certain temps, 5, 6, 7 ans, c'est à peu près le même processus que pour de l'enfance jusqu'à la filiation, jusqu'à l'identification sponsale. Et le phénomène de l'apparition, de la perspective de la fécondité paternelle ou maternelle, c'est au bout de 7-8 ans, petit à petit, c'est l'époux qui a autorité. Et il y a beaucoup de, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de divorces hein, après c'est cette période-là, parce que la mère, l'épouse ne supporte pas Elle veut bien être mère de son époux, quelque part, psychologiquement, mais elle ne supporte pas de se recevoir de l'époux et de lui obéir, c'est-à-dire de l'aimer, de devancer ses désirs. Alors du coup, ça marche que 5, 6, 7 ans. Ça tient à quoi, ça? Je ne reçois pas l'époux. Finalement, vous voyez, là, c'est ici la première étape qui ne fonctionne pas. Et ça vient d'où? Donc, vous voyez bien, ça va. Alors, dès que c'est une relation spirituelle avec une dans l'ordre de ce domaine de l'obéissance et de la filialité, est-ce que ça va bien? Est-ce que je suis bien? Ou bien, au contraire, constamment, c'est plutôt une peur d'être agressé. Est-ce que c'est la peur qui monte? Ou bien est-ce que c'est l'agressivité? Ah, il m'énerve, chef de service. Ah, il m'énerve, mon mari. Ah, au bout de 6 ans de mariage. Au début, il m'énerve pas du tout. Tout nouveau, tout beau, tu vois. Ah, il m'énerve, il m'agace, agressivité. Le pape, ça m'énerve. Le curé qui m'énerve. Et puis il vient à la sortie. Alors, ou passion de fuite, oui. Ou bien alors, le désir de lui plaire. Le désir de lui plaire. Ça veut dire, désir de plaire à quelqu'un, c'est-à-dire avoir peur de son jugement. C'est désir de plaire. Est-ce que c'est plutôt ça, comme ça, cette réaction? Vous voyez, il y a différentes émotions. Si j'ai peur de son jugement, il y a le désir de plaire. Je me plante, quoi. Et ça, ça traduit la honte. C'est qu'on a honte de nous. On a honte, on a ce sentiment de culpabilité, et du coup, ça se traduit par le désir de plaire à ceux qui ont autorité. Quoi, les faillots, quoi. Comment on dit, les faillots. Et rappelez-vous, quand vous étiez gosse, vous étiez faillot à l'école, peut-être. Alors du coup, quelqu'un qui a un gros faillot à l'école, n'est-ce pas, un menteur, quoi, quelque part, finalement, et bien plus tard, il aura cette espèce d'habitude d'essayer de séduire, de plaire, d'attirer l'attention de ceux qui ont autorité. Alors c'est quoi les émotions qui apparaissent, hein? Le visage maternel, les équivalents donc paternels, on vient de les voir, maintenant les équivalents maternels. La belle-mère. La belle-mère, c'est sûr. Vous, la belle-mère, foutez-moi la paix. Dans l'épouse, dans les premières années du mariage, l'épouse nous materne. Le maître des novices, ah oui, alors ça, le maître des novices, c'est quand vous serez au couvent. Vous savez, ça risque de venir très vite, hein. Parce que les événements vont s'accélérant et on va bien être obligé de vivre dans des espèces de monastères invisibles, hein. Et c'est ça l'église des catacombes, hein, puisqu'on va rentrer prochainement dans l'église des catacombes, on sera bien obligé de vivre d'une manière communautaire et donc il y aura tout un travail de renouvellement surnaturel et c'est le maître des novices qui est chargé de ça. Et on se met entre les mains du maître des novices et on fait tout ce qu'il dit. Ouais. Oui. Alors, toute personne donc ayant une fonction d'enfantement vis-à-vis de moi, toute personne, c'est quelqu'un qui me porte par exemple. Je sens que cette personne-là, elle est croyante, elle m'aime bien, le Seigneur lui a dit, ah voilà, il faut que tu portes. Alors, sinon cette personne-là, elle me porte dans la prière. J'espère qu'elle aura eu la délicatesse de ne pas le dire. Mais si elle le dit, tu sais, je vous porte. Alors, du coup, ça réveille en moi quoi, hein, c'est pas comme sentiment des autres. L'agacement, l'agressivité, toujours pareil, hein. Quelqu'un qui me porte et qui a une fonction d'enfantement vis-à-vis de moi. Quelque part, on sait que telle ou telle personne qui m'aime, qui est chrétienne, eh ben, on sait qu'on est porté par elle. Hein? C'est pas. Tiens, tu vois, par exemple, je te regarde, j'en fais, à un moment donné, tu sais très bien qu'il y a une personne qui, bon, elle te porte. Bon, mais elle, c'est différent, c'est une sainte femme. Mais suppose que ce ne soit pas une sainte. Une sainte femme. Le groupe de prière, auquel j'appartiens me porte. Je suis vraiment porté par le groupe de prière. Le groupe Marie-Reine, si petit à petit j'accepte de rentrer dans ce groupe, et ben, je suis porté par ce groupe. Si jamais d'ailleurs il y a un vrai problème à un moment donné, tout le monde prie, hein? On sait très bien. Hein? Et on est donc porté. Quelle relation j'ai avec ce groupe de prière? C'est une fonction de maternité. Bon, mais également l'Église dans son ensemble. C'est pas pareil la relation que j'ai avec le pape et puis la relation que j'ai avec l'Église. Ah, l'Église c'est génial pour moi. Le pape, il comprend pas ce que c'est que l'Église. Voilà. Mais le ou alors le contraire. Le pape, il est génial. Il est génial. S'il n'était pas polonais, ce serait vraiment formidable. Mais il est génial, ce mec. Il est génial. Je l'ai vu. Oh, j'en pouvais plus. Mais l'Église, quelle connerie. C'est pas pareil. L'équivalent maternel, c'est pas l'équivalent paternel. Vous voyez, l'Église, la société, je rejette la société. C'est un équivalent maternel, la société. J'aime pas vivre. Dès que je suis avec... il y avait un frère l'autre jour, un frère de saint, bon je dirais pas son nom parce qu'il n'est pas encore mort. il habitué, il vit en communauté. Moi je vis seul, je suis ermite moi. Mais lui il vit en communauté parce qu'il aime bien. Il aime bien quoi, il aime beaucoup le père. Fondateur, hein? Bon, bref, il vraiment, c'est merveilleux. Quoi. Mais quand cette communauté, il est bien là-bas. Ah, il est bien parce qu'il n'y a jamais personne dans la communauté. Et l'autre jour, on se retrouvait, on était 10, on était au complet. On était 11. On était 11 à l'office. On était 11 au repas. On était 11 dans la maison. Au bout de 2 heures, les angoisses. Il n'en pouvait plus, il était couché pendant 2 jours. Il a dit cette chose extraordinaire, il dit, non, là c'est trop, là j'en peux plus, c'est l'angoisse, je peux même plus dire messe, que tu ne peux pas dire la messe à ma place. Mais il aime le Père, hein. Il est le Père fondateur, ça, il aime beaucoup. Il aime beaucoup le prieur, il est plus jeune que lui, mais c'est le prieur. Mais la communauté, ça l'étouffe. Concrètement, vous comprenez? C'est marrant, hein? Mais il... C'est marrant, avoué. Bon. Ah ben... Vous comprenez que comme il y a un problème de séduction vis-à-vis de l'autorité paternelle, un problème d'étouffement vis-à-vis des substituts maternels, il fallait donc attaquer sur la relation donc d'identité, sur le fraternage. Il faut lui rentrer dedans. Il y a que le fraternage qui peut faire sauter. Effectivement, moi, c'est ce que je fais avec lui. Hein. Ah. Voilà. Bon, donc vous voyez bien les équivalents maternels, la société, la nation, le pays. Voilà, moi, la politique. Hein. C'est marrant que la mère provoque en moi le point de vue de l'amertume. Ben, c'est pas la même chose quand c'est la société politique et quand c'est la société sainte. Hein. Quand c'est la société en voie de sainteté comme l'Église, quand c'est la société politique, société humaine, responsabilité pour essayer de faire en sorte que ça marche quand même un peu mieux avec l'honnêteté, la droiture, de préférence à la magouille. Et c'est pas pareil quand je suis en relation avec la Jérusalem céleste, société tout à fait sainte. Ce n'est pas les mêmes niveaux de maternité, n'est-ce pas? Mais néanmoins, ce sont des équivalents maternels. Donc il faut petit à petit voir, hein, tout ça. Mais je reconnais que les équivalents maternels sont plus difficiles à repérer. Pour des raisons toutes simples, c'est que les blessures qu'on a vis-à-vis de notre mère dans les origines, donc de la conception jusqu'à l'âge de 9 mois, de 9 mois à l'âge de 3 ans, et ensuite de 3 ans jusqu'à l'âge de raison, hein, qui sont les trois grandes périodes de la construction de la maison, les équivalents donc maternels correspondant aux blessures non données sont beaucoup plus enfouis. Pourquoi ? Parce que la relation à la mère est beaucoup plus antérieure, beaucoup plus antécédente quelque part. C'est pour ça que les équivalents maternels sont plus difficiles à repérer en nous quelque part, du point de vue de... Mais ils existent, hein. Les origines donc des blessures vis-à-vis de la relation d'amour vis-à-vis de la mère sont plus douloureuses aussi que les blessures qu'on a eues vis-à-vis de notre père, et plus profondes. C'est pour ça que ces équivalents maternels sont plus difficiles à retrouver. Donc c'est beaucoup plus proche de l'origine, tout à fait origine, que pour les autres. Mais en tout cas, ils vont révéler tous les espaces où mon cœur, comme enfant, a dit non. Et où à partir de là, j'ai continué à dire non en me coupant à travers ce non de ma fidélité vis-à-vis de Dieu. Il y a le non que j'ai dit résolument à l'âge de 5 ans ou à l'âge de 6 ou 7 ans parce que j'ai reçu une gifle de ma mère. Ce non que j'ai dit, la première fois que j'ai dit non avec mon cœur, tu vois, c'est clair. Que quand j'ai dit ce non-là, j'ai dit non à Dieu. Et ça, je m'en rappelle. Hein, si j'ai fait un bon travail de deuil, je m'en rappelle. Hein, oh là là. Que le non que j'ai fait vis-à-vis de ma mère est inséparé en conscience, en lucidité, à l'époque où j'ai dit non, de Dieu. Est inséparé de cette relation avec la providence de Dieu. De ce non à la providence de Dieu. C'est Dieu que j'ai éclaboussé en disant non à ma maman. Et je continue à me couper de cette filiation avec Dieu à travers des noms sur des équivalents maternels analogiques. Ce qui montre bien que c'est par la mère que j'ai dit non, puisque après c'est les équivalents analogiques de maternité. Donc c'est ni ma maman qui est visée, ni l'équivalent analogique, la société, la communauté, etc. Là, c'est bien Dieu qui est visé. La preuve, c'est que je change tout le temps. Toujours le même nom, mais c'est à Dieu, sous le visage de ce qui peut m'enfanter. C'est donc la source de tout enfantement que je dis non, profondément, dans ma mémoire spirituelle et ontologique. Mais psychologiquement, c'est à ma maman que je dis non. C'est à Léon que je dis non. Ouais. Eh bien, Jésus, c'est le fils obéissant du Père de Saint-Joseph, le fils obéissant à l'Immaculée, qui va m'aider. C'est lui qui va m'aider. Il va m'aider à reconstruire mes fondations à travers son humble obéissance humaine, hein, son humble obéissance humaine au Sanhédrin, dans le temps de Jérusalem, quand il a 12 ans, au rabbin de la synagogue, à la Torah collective d'Israël, s'est soumis en tout. Et il a obéi à Joseph, il a obéi à cet extraordinaire visage d'humilité, de pauvreté, de dépouillement et de source de vie qui est Saint-Joseph. Et cette obéissance très humble de Jésus, où il va aller jusqu'à obéir à la croix, à la volonté du Père, c'est à travers cette obéissance dans laquelle je vais rentrer. Je vais m'approcher de Jésus, petit enfant, je vais rentrer en lui, et à travers lui, je vais découvrir comment il obéissait, comment il continue d'obéir à Joseph, à Marie, à l'Immaculée, à l'Église, au prêtre, au pape. Jésus obéit. À chaque fois que le prêtre dit « Ceci est mon corps », Jésus s'exécute dans la seconde. À chaque fois qu'un baptisé dit « Seigneur Jésus, pardonne-moi, lave-moi de toute faute », il s'exécute, il obéit au visage de Joseph qu'il voit à travers moi. Et il obéit, il vient laver et habiter spirituellement dans la grâce de toute l'humanité en moi à travers la demande de pardon que je fais. Joseph, il a cette relation avec Jésus et il obéit tout le temps. J'apprends avec Jésus à obéir, hein, à cette obéissance qu'il a vis-à-vis de l'Immaculé, vis-à-vis de Joseph. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau que je découvre dans mes espaces intérieurs et qui vont m'aider à reconstruire ma fondation. Mais pour que notre Père soit bon et miséricordieux, il faudra faire pénétrer cette obéissance et cette guérison de ma filiation vis-à-vis de mes manques de filialité. Alors, tous les problèmes de sentiments correspondant à l'agressivité, hein, je suis rebelle, hein, et au manque de soumission, c'est la contestation, vont être signes que ce que je vis, étant petit, que ce que j'ai vécu étant petit, a réveillé une liberté quelque part personnelle, beaucoup plus du côté de la curiosité et de l'orgueil que de la perversité. Mais néanmoins, ça a réveillé une liberté de dire, de se mettre en dehors de cette obéissance. Et à travers précisément cette obéissance de Jésus, je vais retrouver donc la bonté, la miséricorde du Père pour lui, Jésus, et donc pour moi, quand je vis ça avec Jésus, de manière à ce que je vais pouvoir reconsentir avec Jésus à devenir fils du Père. Ça, c'est le grand foie de guérison. Vous sentez que là, l'importance tout à fait extraordinaire du rosaire pour vivre ça et voir que je peux rentrer en Jésus et à travers Jésus revivre sans la manière d'obéir, d'être fils de Marie, fils d'Israël, fils de l'homme. Pour ça que Jésus a dit, je suis le fils de l'homme. Vous n'avez jamais entendu dire Jésus dire, je suis le fils de Dieu. Saint Jean l'a entendu une fois. Et c'est tout. À ce moment-là, je vais accepter de reconsentir à être fils. Non, tu sais, moi, je vais vous dire tout ça. Et pour ça, je vais m'aider à travers les équivalents paternels et maternels. Et la grande guérison, c'est bien évident, Saint Joseph, mon papa, mon père, il faut que je puisse arriver à dire mon papa, hein. Et à travers donc les équivalents paternels et maternels, retrouver ce état tout simple, quoi, et dire à Saint Joseph, là, il est génial, hein. Écoutez, je suis désolé, mais papa, c'est mon papa, je vous jure, c'est vrai. Évangile de Saint Luc, évangile de Saint Matthieu, nous avons tous été créés, évangile de Épître aux Éphésiens, nous avons tous été créés par le Père à l'image du Fils. Et le Verbe de Dieu, prologue de l'évangile de Saint Jean, illumine tout homme lorsqu'il vient dans ce monde, le Fils. Illumine mon corps, mon âme, mon esprit et l'unité des trois dans la personne que je suis. Et c'est le Verbe de Dieu, le Fils du Père. Et ce Fils du Père, il nous sommes créés à l'image du Christ pour être dans le Christ, le Fils, la louange et la gloire et la vision du Père. Et ce lien avec le sein du Père, nous sommes créés comme ça. C'est comme ça, saint et immaculé, devant sa face, en sa présence, tout au long de nos jours. Et le visage physique du Père éternel, c'est Joseph. C'est le Père de Jésus, et moi je suis créé dans l'image du Christ et du Fils, le Saint, 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 le Seigneur, le Christ, le Fils unique du Père, dans sa chair, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme et moi, c'est la même chose quelque part, je suis vraiment, spirituellement, surnaturellement, le Christ, le Messie, l'onction même, qui s'empare de ma chair humaine pour être avec le Christ, Fils du Père, et le visage du Père, c'est papa, c'est mon papa charnel, c'est mon papa, c'est Joseph. Parce que Joseph, évangile de Saint-Luc, évangile de Saint-Matthieu, est quand même l'origine de tout le domaine du physique dans le Christ. Ce domaine physique qui me rejoint moi, parce que mon corps par le baptême rejoint le corps mort, le ressuscité du Christ, lequel il le tient d'où, de qui, de la substance de Marie et de ce qui, dans la chair de la Marie, de la Vierge Marie, relève de l'unité sponsale avec Joseph. Voilà ce que le Verbe de Dieu, le Fils du Père, a assumé dans la substance de Marie. Quand il a pris chair, il a assumé ce qui relève dans sa substance de l'unité sponsale avec Joseph. Or, il a pris quelque chose qui relève de la matière, pour se constituer un corps. Donc, les parties, j'allais dire, qu'il a assumées dans le corps de Marie, il a assumé tout ce qui relève de l'unité sponsale, de la Sainte Famille, donc de cette espèce d'unité extraordinaire, sponsale, entre Joseph et Marie, leur unité de chair, qui était purement virginale. Et pourtant, c'était une unité de chair. La détermination venait de Joseph, autant que de la Vierge, de ce qui a été assumé par le Verbe pour se constituer un corps. Et donc Joseph, c'est le père de la partie humaine du Christ. Et c'est dans cette partie humaine du Christ que j'ai été créé. Merde, c'est super. Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 18. Je suis fils. Et Joseph, c'est mon papa, c'est mon vrai papa, surnaturellement parlant. Mais par la cause finale. Mais la cause finale est beaucoup plus exacte que la cause illusoire. La cause maïque. N'est-ce pas? Il faudra regarder en métaphysique l'année prochaine la différence entre la cause matérielle, la cause efficience, la cause formelle et la cause finale. Et quand on ne comprend pas ça, on voudrait se réfugier du coup dans la cause exemplaire. C'est le drame du néoplatonisme et du New Age. On se réfugie dans la cause exemplaire et on fuit la cause matérielle, la cause efficiente, la cause formelle et la cause finale. Et tant. Donc on va se renouveler déjà en métaphysique l'année prochaine. On pourrait voir clair là-dessus. Mais voyez bien, reprendre ce cerf comme papa, l'immaculer comme ma maman. Maman immaculée. Oh, je me rappelle qu'est-ce que ça m'a fait du bien. J'avais fait ça pendant plusieurs mois quand j'étais novice. Au début, je ne faisais pas ça. Je me fais un peu cucu quand même. Oh. J'ai fait quand même HEC, alors un petit peu niveau correct. Quoi. Puis, tu sais, quand même, quand j'étais tout seul, c'est maman immaculée, maman bien-aimée, maman immaculée. Puis, je m'endormais comme ça. Ça m'a fait du bien, vous savez. Je suis sûr que ça m'a fait du bien. Parce qu'il fallait que j'accepte mon maître de novice à cette époque-là. Et mon maître de novice, c'était le père Emmanuel. C'est pour ça qu'il avait une voix un peu. Ah, oh, mais il est venu en faire. Mais moi, j'ai rien fait. Faut que j'en ai joué, mais moi. Oh merde. C'est à chaque fois que je vais m'approcher de l'Ermitage du père Emmanuel, je te jure, je trouvais pas ça drôle. Alors le soir, j'ai ma maman immaculée, ma maman bien-aimée. Et après, quand j'allais voir le père Emmanuel, peut-être, l'air de rien, j'étais plus de confiance, plus d'abandon, plus d'accueil, plus d'espérance, ouais. Plus de douceur, je sais pas, plus d'enfance quelque part. Ouais. Ça contribuait d'ailleurs à l'en énerver davantage. Mais je vous assure que ça m'a aidé, j'aurais pas fait maman. Je suis sûr, si Saint-Esprit m'avait pas inspiré de dire ma maman immaculée c'est tous les soirs, j'aurais pas pu rester à Montmorin. J'aurais pas pu rester. C'est impossible humainement. Ah. L'identité, deuxièmement. L'identité, elle se construit donc là-dessus. Elle se construit là-dessus. C'est là-dessus que mon identité se construit. Donc la grande guérison, c'est d'être attentif à ces émotions-là. Du coup, au lieu de fuir les équivalents paternels ou maternels, le pape, le curé, l'évêque, l'enseignement, etc., 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 ou ceux qui me portent, tant pis, se retrouver confronté à eux.
petit à petit s'habituer à ces émotions, cette gestion des émotions, et à partir de la gestion de ces émotions, du coup, quand je me retrouve seul à prier, je le fais avec maman, je le fais avec papa, je le fais avec lui. Je le fais en relation avec l'unité de l'Immaculé, son époux, le Père de Dieu. Dans cette unité, je me plonge et je plonge mon amertume, ou mon agressivité, ou ma contestation, ou ma blessure, ou ma mort, ou ma paralysie, là, dans cette espèce d'océan de paternité et de maternité humaine, corporelle, où Jésus a trouvé le moyen de devenir fils de l'homme. Donc, deuxièmement, à partir et là-dessus, je peux revenir à une guérison de mon principe d'identité, la relation fraternelle d'égal à égal, qui va être de deux types. Il y a ceux qui sont de la même sexe que moi et ceux qui sont d'un sexe différent de moi. Il y a une différenciation sexuelle qui structure l'homme et la femme, et il est évident qu'il y a quelque chose que je dois accepter, j'allais dire, cet amour de complémentarité. La signification. La signification des émotions qui apparaissent dans les relations d'égal à égal que j'ai avec quelqu'un de sexe différent ou de même sexe que moi vont évidemment, très évidemment, avoir une connotation différente. Avec un frère, si je suis un homme, donc avec les personnes la différenciation sexuelle est la même que pour moi. Est-ce que donc le type de relation que j'ai avec, dès que je suis avec quelqu'un qui est du même type que moi quant à la signification sponsale, est-ce que ce sera la tristesse? Est-ce que ce sera, lorsque la relation sera concrète, hein? Je ne dis pas que la relation soit profonde, je dis qu'elle soit concrète, une confrontation réelle. Est-ce que c'est la tristesse, l'agressivité ou la convoitise qui domine, hein, les trois grands types, hein? Bon. Alors, est-ce que ces émotions vont me dire que soit je veux être très proche de ce frère, si je suis un frère, soit donc je désire être très 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 proche de ce frère, voilà, ou de cette sœur, enfin si je suis une femme, hein, et à ce moment-là, de vouloir être très 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 proche de quelqu'un qui est du même sexe que moi, ça va être le signe d'un manque d'identité parce que ça s'identifie quelque part à la relation fusionnelle. Le très très proche de ce frère, ben, si je suis un frère, ou cette sœur, si je suis une sœur. Enfin. Alors, il y a un phénomène donc de fuite d'identité parce que je rentre dans une relation profonde pour avoir une impression fusionnelle quelque part. Hein. Il a des qualités quoi que j'aimerais avoir. Il a et donc je suis pas amoureux de lui. Vous voyez, je suis pas amoureux, c'est pas de l'homophilie. Si, c'est une certaine c'est un amour de similitude, si vous voulez. Mais c'est pas vraiment. C'est pour ça que aujourd'hui c'est pénible parce que les gens ils perçoivent ça très très fort et ils confondent l'amour de similitude, l'attitude fusionnelle, l'homophilie et l'homosexualité. Comme ils sont incapables de voir la différence entre leurs actes, leur âme, leur identité personnelle et leur identité métaphysique, hein, ils font, s'il y a un phénomène fusionnel tout à fait normal, parce que j'ai vraiment envie de vivre ce qu'il vit. Il y a un phénomène de relation fusionnelle, mais bon, en même temps, je ne vis pas du coup ce que je vis moi. À travers cette identité, il y a une fuite d'identité quelque part. Mais sous prétexte que je tombe là-dedans quelque part, du coup, je dis ben voilà, ça me donne une émotion physique, comme si. Et puis je crois du coup que je suis homo, je sais pas quoi, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune continuité aucune continuité entre l'émotion sensible et l'émotion sexuelle. Aucune. Le blocage entre les deux vient de l'idéologie. L'idéologie, notamment freudienne, qui a introduit ce blocage dans toutes nos manières de concevoir la pédagogie, la relation au père et à la mère, la relation éducative que j'ai subie. Il n'y a aucune continuité entre l'affectivité sensible et l'affectivité sexuelle. Il faut le savoir. Et ce blocage se fait là de manière artificielle par l'éducation freudienne, dont on est tous imbibés. Donc quelque part, quand je tombe dans des relations de type homosexuel, dont j'ai l'impression qu'elles sont de type homosexuel, eh bien en réalité je tombe dans une relation idéologique. C'est un phénomène idéologique. Et c'est très important à réaliser ça. La réalité, c'est que l'affectivité sensible n'a rien à voir, n'a pas de continuité nécessaire avec l'affectivité sexuelle. Oui, si j'ai perdu mon identité, c'est vrai, parce que tout est mélangé dans le melting pot de l'anarchie imaginative. Donc, premier type de réaction, eh bien, je veux être très proche de ce frère, qui est de même, il a des qualités que j'aimerais avoir. Alors, ça va se manifester dans une espèce d'abdication, de m'écraser devant lui pour que vivre avec lui dans cette espèce d'admiration et de fusion. C'est-à-dire que je vais m'écraser, je vais abdiquer moi-même de ce que je suis dans une culpabilité et une agressivité qui finalement est dirigée contre moi-même et que je vais vivre dans la jouissance parce que cette fusion avec l'autre fait que ça me fait du bien et j'en jouis. Mais finalement, c'est au prix d'une agressivité contre moi-même et d'une destruction, j'allais dire, de mon identité à cause de la culpabilité profonde. Alors ce sera une relation qui ne sera pas finalement libre. À l'extrême, ça peut faire tomber dans une relation homophile. Bon, affectivité sensible homophile. Bon, ou bien, et c'est très différent, on va rentrer dans une relation d'indépendance, c'est-à-dire quelqu'un qui est de même sexe que moi, l'amitié masculine, si je suis masculin, une amitié masculine, habituellement, ouais, j'aime bien être, avoir des amis, mais c'est plutôt pas du tout un phénomène de fusion, c'est un phénomène d'indépendance. Hein. Bon, ok, mais on est amis, on sort ensemble, mais c'est plutôt l'indépendance qui va dominer, ok, tout à fait différent. Alors, au bout d'un certain temps, assez vite, une fois que le tout nouveau, tout beau est terminé, c'est « Oh, il m'énerve, il m'agace, je ne peux pas le voir en peinture, etc. » Ou si vous êtes une fille, donc « Elle m'énerve, elle m'agace, non, elle n'existe pas, je l'ignore, etc. » Donc les émotions sont tout à fait différentes. C'est une espèce d'agressivité ouverte qui monte en moi. Voilà. Et donc en fait, il me met en face et en plein visage, donc une façon d'être qui me rappelle ce que je suis. Vous comprenez, je me reconnais trop, on est finalement pareil, ah, ça m'énerve de le voir comme ça. Et tout ce que je ne veux pas voir, je le vois à cause de cette relation d'amitié, quelqu'un que je connais bien. Bon, ou bien encore, troisième possibilité, mais c'est plus délicat à comprendre. Hein. Bon, il a un comportement, donc mon ami, parce que lui, il a fait des choix qui sont tout à fait contraires aux choix que moi je posais. J'ai posé des choix tout à fait différents de lui, mon ami. Hein. Par exemple, quand j'étais petit pour survivre, il a fallu que je sois très très sage, très gentil pour me faire aimer par ma maman, par mon papa. Et justement, à côté de moi, il y avait mon frère aîné, lui, il avait fait le choix inverse. Il avait fait le choix différent que moi, celui que j'ai fait quand j'étais petit, n'est-ce pas? Hein? Il a choisi d'être insupportable, quoi, à la maison, lui. Moi, non, je me suis. J'ai essayé d'être très gentil, très sage pour que papa et maman me préfèrent. C'est étonnant, ça. Hein?
C'est souvent entre l'aînée et la cadette, par exemple, quand c'est des filles, c'est souvent ça. La petite, l'aînée ne supporte pas la cadette. Hein. Et les équivalents de la cadette, après. Parce que l'aînée, quand la cadette est arrivée, elle dit moi, je n'existe plus. Elle a été insupportable. Et quand l'aînée, après, elle dit quelle connerie elle fait après. Mon Dieu, après, dès qu'elle est adolescente, tout ça. Oh, mon Dieu. Et la cadette, au contraire, sage, sage. Ça, c'est des phénomènes très, très, très courants et souvent, bon... bon. Alors, donc l'autre, voyez bien, l'autre m'énerve en moi parce que je ne suis pas confronté à ce que je suis, mais je suis confronté à l'inverse de ce que je suis. Donc, vous voyez, c'est plus délicat ici à comprendre ça, hein, quand même. Mais enfin, on comprend les sources, les origines. Moi, pour hésiter, il ne fallait surtout pas que je sois insupportable, quoi. Donc, quand je vais me trouver en face de quelqu'un, un ami du même sexe que moi, qui fait ce choix inverse, au fond, d'être insupportable, anarchique, grossier et tout, je vais l'agresser. Quoi. Je vais sentir en moi une agressivité parce qu'il a fait le choix contraire au mien. Parce que ce choix est important pour moi, parce qu'il m'a permis de survivre vis-à-vis de mon père et de ma mère. Donc la personne, une relation concrète avec quelqu'un qui est un compagnon si je suis masculin, une compagne si je suis masculine, de même sexe que moi, va donc réveiller en moi un certain nombre de choses. Et il faut que je sois attentif à ce que ça provoque en moi, à ce que ça réveille en moi, à ce que ça révèle de moi. C'est la grande loi au fond du combat spirituel de la charité fraternelle, ça. La charité fraternelle est quelque chose de vraiment nécessaire pour que je puisse retrouver quelque chose de vrai dans mon cœur de fils. Et dans la manière dont mon cœur de fils me situe par rapport aux autres fils de cet unique père, cette unique mère. Et la charité fraternelle joue ce très grand rôle important. C'est un combat spirituel dans la relation que j'ai avec eux et les émotions qui s'en dégagent. C'est pour ça que la prochaine fois, que si jamais Dieu nous prête vie, tant pis, on repoussera l'étape suivante. Il faut absolument qu'on regarde la gestion des émotions. Parce que pour l'instant, on essaie de voir comment on accepte de faire rejaillir ces émotions dans les événements généalogiques et relationnels. Mais pour l'instant, je ne vous dis pas comment on va gérer ces émotions. Et la gestion des émotions correspondantes, on ne doit pas obéir aux dites émotions pour que se reproduise l'événement analogique. Moi, j'ai bien mis 6 ans avant de me marier, donc il faut reproduire cet événement-là. Parce que l'événement se passe différemment, ça me met dans un état. C'est une émotion que je dois assumer et gérer, et pas retranscrire. Parce que je dois retrouver ce fait d'obéir à Dieu comme fils. Et la gestion des émotions se fait d'une manière particulière. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'il faudra... Mais on ne peut pas tout voir, hein, donc on verra si Dieu nous permet de nous retrouver un jour, on en parlera. La relation à l'autre sexe ne touche pas seulement l'identité, cette fois-ci, mais elle touche aussi ce mystère donc sponsal d'épousaille. Cette fois, je suis en relation avec quelqu'un de l'autre sexe que moi, c'est que je suis en relation avec ceux qui sont tout autres que moi. C'est l'autre en tant qu'autre. La relation fraternelle avec quelqu'un d'un sexe différent est donc, vous voyez, en tant qu'autre. C'est-à-dire celui qui n'est pas comme moi et celui qui va me renvoyer à mes manques d'identité. Vous voyez ? Bon, si par exemple, comme homme, j'ai quelques inquiétudes ou angoisses dans cette acceptation de mon identité d'homme, parce que j'ai des ruptures de relations avec le parent du même sexe que moi. Et donc, finalement, je suis toujours mal quelque part en moi dans cette identité personnelle en tant qu'homme. Parce que il y a eu une rupture de relation avec mon père. Je suis homme, il y a eu une rupture de relation avec quelqu'un du même sexe que moi. Du coup, dans mon identité d'homme, je ne me retrouve pas.
n'ai pas pu me situer comme homme à cause de ça. Du coup, mon identité est défaillante là. Et donc, je serai angoissé de rencontrer celui qui est autre que moi et qui n'est pas comme moi. Parce que ça révèle ce manque d'identité en tant qu'homme. Vous voyez bien, il y a eu un problème avec mon père. Ce problème avec mon père est tel que je n'ai pas pu me retrouver dans mon identité de masculine. Et du coup, j'ai peur de l'autre sexe parce qu'il révélera ce manque d'identité masculine. Ça va? Alors la peur va dominer. Mais on verra les émotions. Pour l'instant, ce qu'il faut voir, c'est soyez attentif au type d'émotions qui apparaissent à ce moment-là, à condition bien sûr d'abord de commencer en étant en prière, dans un état de grâce de préférence, pour qu'il n'y ait pas l'interférence principale du psychologique et de l'imaginaire. N'est-ce pas? Alors, donc je vais, la relation que j'aurai avec cette sœur-là, avec tel type de sœur, bon, eh bien, elle pourra être soit trop proche, fusionnel pour pas que je vois ma masculinité, hein, c'est très moderne. Soit au contraire très loin, pas dépendre d'elle. Je me protège toujours. Je vis avec elle, j'en profite, c'est bien, mais je la garde quand même bien loin, quand même, quelque part, pour me protéger d'elle. Donc, il faut comprendre que derrière la relation à l'autre sexe, il y a toujours derrière, en filigrane, par exemple si c'est masculin, derrière ce visage féminin, il y a ce qui a été introjecté progressivement en moi, dans ma revue relationnelle, de toute mon enfance. Le visage maternel. Oui, donc si je suis donc derrière, c'est évident, de toute façon vous le savez ça. Bon, puisque la majorité est féminine, bon, si je suis une femme, je ne sais pas si je suis une fille, bon, la manière de réagir, les émotions qui vont apparaître en moi, lorsque je serai en relation concrète avec quelqu'un qui est d'un sexe différent de moi, va réveiller tout ce qui a été introjecté en moi dans mon enfance par rapport à ma relation vis-à-vis de mon papa. C'est une fille là, hein. Ça va? Donc les émotions, je veux dire. Il m'énerve, mais c'est pas lui qui t'énerve, c'est ce qui a été introjecté en toi dans ta relation avec ton père quand tu étais enfant, et quand est apparu en toi le phénomène de ton identité, 4, 5 ans, 3, 4, 5 ans. Pardon, mais les équivalents paternels ils sont toujours. Vous n'avez pas eu de père? Vous n'avez pas eu de père à 3-4 ans?
Oui, il m'en a d'ailleurs.
Mais vous avez plus de 3, moins de 3 ans?
J'avais 2 ans. Et
vous aviez 2 ans?
J'avais
aussi. Ah oui. Mais vous aviez un grand-père? Un oncle? Un frère aîné? Un frère aîné? Des oncles? Ouais. Oui, il y a des équivalents toujours paternels. Et puis votre père, il était au ciel, il était là, il était présent dans la maison, il avait sa photo. Oui. Mais cette relation d'absence du père qui est mort, hein, va introjecter en vous comme enfant tout un ensemble de choses qui font que dans votre relation ensuite par rapport à quelqu'un du sexe différent de vous, ça va correspondre. Ça va conditionner votre relation avec votre mari. C'est normal, ça c'est une évidence, ça que tout le monde sait, ça. Bon. Un petit garçon découvre ce qu'est une femme, une épouse et une mère en regardant sa mère. Tout le monde sait ça. C'est donc à travers le visage de la maman que le petit garçon découvre la femme, l'épouse, la mère. C'est évident ça. Et il va retrouver donc dans les équivalents fraternels, sœurs, etc. Ça, c'est ça qui est introjecté, qu'il va vouloir retrouver, n'est-ce pas? Bon. Et ça va construire sa relation donc à l'autre, à ceux qui sont totalement différents de lui, jusque dans leur corps. C'est ça qui va. Et donc dans la vie conjugale, ben forcément, par exemple, dans la vie conjugale, forcément, à certains moments. Dans mon conjoint, Bah, certes, je vois mon épouse, ça c'est clair, mais je peux voir aussi, surtout, donc, surtout quand je suis fragile, surtout quand je suis fatigué, surtout quand je suis découragé, surtout quand je me sens plus sans aucune ressource, quand je suis honteux de moi, surtout à ce moment-là, quand je suis malade. J'ai envie de retrouver, au fond, une infirmière. J'ai envie de retrouver une infirmière à ce moment-là. J'ai envie de retrouver ma mère. Et je vais voir derrière cette sœur, au fond, cette conjointe, un visage maternel. Souvent, les hommes se fiancent quand ils sont fragiles. Hein. Et heureusement. Or, la femme, c'est une infirmière née. Voilà. Donc, pareil pour la femme qui va trouver dans son mari à certains moments de vie conjugale, parce qu'elle en aura besoin, elle cherchera ou elle transposera donc une quête paternelle, qui l'a déçue lorsqu'elle avait 5 ans. N'est-ce pas ? 4, 5, 3, 4, 5, 6 ans. Voilà. Donc tout ce qui a pu être difficile dans la relation d'autorité avec mon père et ma mère va être transposé dans la vie conjugale ou dans la relation fraternelle à l'autre sexe. Eh bien, les émotions que nous connaissons dans ces relations de ce type ne sont évidemment pas anodines, vous vous en doutez. Et bien sûr, il ne faut pas tout décortiquer. Hein. Je ressens ça donc, ouais. Non ! Pas d'analyse ! Faut pas décortiquer, pas analyser, disant ouais, il y a ça, et puis du coup, tac, 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 tac. Alors ça, c'est l'erreur. Faut pas faire ça. Mais faut voir que les émotions qui apparaissent à cette occasion-là sont des émotions qui me relient à toute ma soi, toute ma vocation d'amour, et qu'elles ne sont pas des émotions qui sont reliées à cette personne-là actuellement. Et que c'est pas de sa faute si je suis agressif, c'est pas de sa faute si je suis tourmenté, c'est pas de sa faute s'il y a l'agressivité. Ouais, qu'est-ce qu'il est ? Ouais, non, c'est de moi qui suis impliqué, c'est tout ce que je dois comprendre. Et je dois pas analyser, je dois constater, et c'est tout. Et après, gérer les émotions, c'est la prochaine fois. Gestion des émotions. Et il y a devant Dieu, à ce moment-là, c'est pour me montrer que je dois me réorienter en Dieu. Et que je dois reprendre un chemin humain et un visage humain dans un corps spirituel. Au lieu que ce soit dans l'affaissement d'une affectivité sensible qui se lie à quelque chose qui relève de l'instinct terrestre. Et aux pulsions de mort. Et vous voyez, c'est ça qui est terrible dans notre éducation moderne, contemporaine, avec Jung, Freud, Lacan, Reich. Vous voyez ? Eh bien, c'est que tout est orienté, interprété dans le sens contraire des pulsions de mort, des pulsions de vie. C'est inouï. C'est une espèce d'inversion du dragon à cette tête et à cette corne de l'Apocalypse. Avec les enfants maintenant, paternité, maternité, ce qui va dominer, c'est surtout donc ici. Évidemment, que ici, la grande guérison, hein, c'est encore avec Jésus, mais Jésus, plus adulte déjà. C'est facile pour une jeune fille, Jésus, c'est mon frère. C'est Jésus que je préfère. Jésus est toujours là, il joue avec moi, il a toujours joué avec moi, et maintenant que j'ai 25 ans, maintenant que j'ai 35 ans, maintenant que j'ai 45 ans, eh bien il continue à être là, et il aime bien jouer avec moi. C'est celui que je préfère, et c'est moi qui le préfère, je suis sa sœur préférée. Et il faut savoir que, et en plus c'est vrai, c'est ça qui est bien, c'est pas du tout une introjection là, c'est pas une projection. Et donc vivre avec Jésus et l'épouser, être son frère. Moi, j'aime bien l'image des frères siamois. Je sais pas. C'est pas monstrueux du tout. Il y a un seul corps et deux têtes. Ça fait monstrueux comme ça, mais n'empêche que, quelque part, moi, je préfère que ce soit une seule tête, d'ailleurs. Mais c'est la même tête. Jésus et moi, on est frères, on est... Vous comprenez, ce mystère des épousailles à quelqu'un d'un sexe différent, c'est facile pour vous, mes petites sœurs, n'est-ce pas ? Ou mes grandes sœurs. Alors, pour le masculin, c'est pareil. Jésus, c'est mon frère. Et je l'épouse aussi. Jésus, c'est... Il y a un épousaille possible pour nous, pour nous aussi, heureusement. Vous savez bien, je vous le rappelle rapidement pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Hein. Les deux dimensions de Jésus, mon frère, ma sœur. Le Père, dans la très sainte Trinité, c'est l'époux véritable. Le Fils, dans la très sainte Trinité, c'est l'épouse véritable. De l'unité profonde d'amour entre les deux jaillit, brûle le point de vue donc de l'unité des deux, ce poids d'amour, de gloire qui fait que Dieu est un seul amour, une seule vie, l'Esprit Saint, une seule personne. Très bien. Donc le Fils dans la très sainte Trinité, Jésus-Christ, Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans son humanité, qu'il assume, sa divinité assume une humanité masculine. Son humanité masculine, c'est le visage pour moi, surnaturellement parlant et corporellement parlant, de l'époux. Je vais pouvoir épouser Jésus si je suis une jeune fille normale. L'union transformante avec notre Seigneur Jésus-Christ va faire que ma dimension sponsale dans mon corps de femme, mon cœur de femme, la jonction entre la différenciation féminine et mon âme spirituelle, fait que je suis femme, épouse, et là je vais épouser, je vais pouvoir faire une seule chair glorieuse avec lui. Il est tout autre que moi, il est masculin. Alors il y a une épousaille possible, n'est-ce pas ? Là, ici, Jésus, c'est mon époux. Mais grâce à lui, grâce à ça, je vais rentrer dans sa personne. Sa personne, elle est divine et incréée, et il se trouve qu'elle est féminine. Et donc Jésus est en même temps ma sœur. C'est mon époux et ma sœur, voilà pour les jeunes filles. C'est mon époux dans sa masculinité humaine, c'est ma sœur dans sa divinité incréée. Ça va ? À l'inverse, c'est d'une manière tout à fait différente pour les... pour ceux qui sont des apôtres, des êtres masculins et tout ça. Bon, eh bien, Jésus, c'est mon frère. Voilà. C'est mon frère dans son humanité en tant que fils de l'homme. Et c'est mon épouse. C'est mon épouse. Je l'épouse. Je fais une seule chair glorieuse avec l'épouse, avec le fils. Hein? Là, ça implique quand même qu'on soit contemplatif. Hein? Enfin, je reconnais. Hein? Et c'est évident que de toute façon, c'est la vie contemplative qui guérit le phénomène d'identité du côté de la masculinité, de la féminité. C'est uniquement la vie contemplative. Hein? C'est pas compliqué. Hein? Donc, ce n'est pas une petite carmélite. Il est impossible qu'on puisse vivre du mariage. Impossible, petite carmélite. Si on n'est pas un bon ermite chartreux, extraordinairement trappiste, cistercien, contemplatif, pur, on ne peut pas être un bon mari. Impossible. Et c'est pour ça qu'il faut retrouver la guérison dans cette relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, en vivant totalement cette unité de chair avec lui. Et ça, c'est lucide, c'est contemplatif, c'est clair. Or, on est contemplatif avec ses mains, avec son corps, avec son étreinte, avec son cœur. Jésus, Père de Dieu. Et c'est marrant comme les chrétiens ont une foi dans l'union transformante qui n'a rien à voir du point de vue de l'expérience surnaturelle, physique et psychique que l'expérience de l'union transformante qu'ont les chrétiennes. Rien à voir. C'est merveilleux, regardez, la différence qu'il y a avec la même grâce du Carmel chez Saint Jean de la Croix et puis Thérèse d'Avila. Les mêmes étapes, mais lui, il épouse le Verbe, elle épouse le Christ, Jésus. Oh ! Ah ! Et ça fait surnaturellement une union transformante qui n'a, du point de vue des émotions surnaturelles, n'a rien la voir. Il faut voir la description de Saint Jean de la Croix et vous mettez en parallèle la description de Thérèse d'Avila. C'est étonnant.
C'est vrai.
C'est étonnant. Étonnant. Détonnant. Il faut devenir contemplatif, faire oraison. Donc si vous trouvez un père spirituel, mesdames, n'est-ce pas, qui vous dit, voilà, moi je vis les choses comme ça, donc tu dois les vivre comme ça, abandonnez-le, ne le laissez pas comme votre père spirituel. Parce que la vie, le père spirituel, c'est pas quelqu'un qui doit imposer son truc. Il est seulement témoin, c'est tout, de ce que l'Esprit Saint fait en vous. Et si vous avez une relation fraternelle avec une, messieurs, une chrétienne, n'est-ce pas, qui veut vous convertir, etc., je veux dire, mais il faut que vous viviez la chose comme ça, quoi, hein. Moi, je dis ça comme ça, et tu vis pas. Et, donc, et elle dit, oui, il croit pas. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle en sait rien! Elle ne peut pas le savoir. Et elle voudrait que tu vives les choses comme elle. Ben, enfin, ça va pas, non. Bang, 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 bang. Oui, c'est l'heure de l'office. Ah bon, alors, avec les enfants, les équivalents paternels, surtout avec vos enfants dans l'ordre de la chair, il y a des enfants, il y a celui-là, je ne le supporte pas, c'est marrant, celui-là, oh, celui-là, je ne sais pas, je fonds avec celui-là. Avec celui-là, déjà, les émotions sont différentes selon que ce gosse-là, c'est un enfant, un fils, une fille, ou qu'il a tel type de tempérament, tel autre type de comportement. Ceci aussi fait relever en vous des émotions, parce que l'enfant vous ramène à votre identité. Et à votre mode relationnel vis-à-vis de votre propre père et votre mère, et aussi plus profondément et plus radicalement et plus vraiment, en vérité, votre relation avec Dieu. Donc si votre enfant a vis-à-vis de vous une relation qui est équivalente à celle que vous avez avec Dieu et que ça vous énerve, vous commencez à comprendre pourquoi. Je ne supporte pas que mon enfant soit malade, qu'il soit bête. C'est devenu bête. Parce qu'il n'était pas bête avant, et il est devenu bête. Je ne supporte pas. Tiens, c'est curieux ça. Ça parle, ça dit quelque chose. Vous comprenez? Les élèves, si tu es enseignant, les petits enfants, les petits malades de l'hôpital, si tu es infirmière ou médecin, c'est tes enfants. Il y en a certains qui t'énervent, d'autres qui ne t'énervent pas, ouais, là, etc., etc. Bon. Eh oui. Oui, parce qu'il y a en nous un enfant que j'aime, l'enfant en moi. Il y a une partie en moi de l'enfant que j'aime en moi, parce qu'il correspond à ce qui attirait l'amour parental quand j'étais gosse. Il fallait pour être aimé que je sois comme ci ou comme ça. Alors du coup, ben, celui-là, cet enfant-là, ou ce malade-là, si je suis un médecin, ben, je l'aime. C'est pas parce qu'il est aimable ou pas aimable. Pas confondre. Et puis, bon, y a les autres. Hein, celui-là, c'est devenu un petit canard. Hein, ça, c'est le malade. C'est l'enfer. Je n'ai pas envie d'y aller. Hein. Il ne faut pas que je sois... ça veut dire quoi? Ben, il ne faut pas que je sois comme lui. Parce que si je suis comme lui, eh ben, je ne suis pas aimable. Alors, donc, cet enfant-là, je le mets aux oubliettes. Hein, je préfère. Je le laisse tout seul, quoi. Je m'en occupe pas. Il soit devant la télé ou je préfère. Hein. Voilà. Mais si je me retrouve avec un enfant équivalent, n'est-ce pas, à ce petit vilain canard que j'ai été, n'est-ce pas, alors à ce moment-là, je sens l'agressivité qui monte et qui arrive. Pareil pour les enfants, les fils spirituels. Bon. Donc toute personne sur laquelle vous avez une relation d'enfantement, une mission d'enfantement ou une mission de guide ou d'autorité. Ben, spirituellement, je guérirai cet enfant intérieur à travers le visage de Jésus enfant. Il faut que je comprenne que je suis fils de l'homme, fils de David, fils d'Adam, fils d'Abraham, fils de Nathan. Et que Jésus m'est confié. Et Jésus, je le prends dans mes bras, petit enfant, je suis son père. Ou je suis, moi, fille de Lévi, cousine d'Élisabeth,
petite femme, petite sœur de l'humanité, créée par Dieu. Et Jésus m'est confié, petit enfant, dans mon sein virginal. Jésus naît à partir de moi, dans une unité très profonde avec la paternité bien concrète. Jésus, je l'enfante et je lui donne mon sein. Et j'aime que Jésus me soit confié, et j'aime étreindre Jésus. Jésus, petit enfant. Et il faut que je vive avec Jésus, petit enfant, le plus concrètement possible. Et quelle est la réaction que j'ai lorsque je vois un enfant Jésus dans la crèche comme ça? Est-ce que quand je vois Jésus dans les bras de Joseph, est-ce que par hasard, est-ce que, oh, j'aurais envie, hein, c'est un petit peu l'envie que j'avais tout à l'heure, j'aurais envie de le prendre des bras de Saint-Joseph, puis de le prendre dans mes bras, mais seulement c'est collé, dommage. Comme ça. Mais je peux vous dire que c'est pas toujours comme ça, parce que la première fois, tu dis, j'ai pas joué à la poupée quand même, et ça c'est de la dévotion, c'est des statues, c'est des... Non, pourquoi faire ça? Quand je prends Jésus dans l'Eucharistie, regardez, quand je prends Jésus dans mes mains, dans l'Eucharistie, c'est Jésus qui est là. C'est Jésus petit enfant, Jésus fragile, Jésus qui dépend totalement de moi. Et que je m'en nourris. Et que je porte en moi pour qu'il puisse naître le fruit de l'Eucharistie, le fruit de Jésus dans le monde, petit enfant, qui réenfante le monde. C'est extraordinaire, il faut que jamais je puisse vivre une relation physique de maternité avec Jésus. Jésus, c'est mon enfant, Jésus, c'est mon fils, Jésus, c'est mon tout petit, Jésus, c'est ma fragilité, Jésus, c'est mon hostie, c'est mon offrande, il m'est offert, il m'est donné, c'est mon tout petit. Et je vis avec Jésus, je vis avec Jésus. Reconnaître Jésus parmi les enfants. Regardez, arrêtez-vous devant une cour de récréation de la maternelle, puis regardez les enfants jouer, et reconnaissez celui qui, où Jésus se trouve. Je suis sûr qu'un jour vous verrez Jésus. Sans vous en rendre compte, au ciel, vous direz, tiens, il dira, tiens, ce petit garçon, c'est moi. Les autres enfants ne me voyaient pas, je jouais avec eux, toi tu m'as vu. Il faut apprendre, retrouver son regard pour voir Jésus. C'est vrai, Jésus petit, jouer avec lui, être avec lui, regarder au jeu, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Retrouver à ce moment-là, on est avec lui, on est comme lui, on voit ça, c'est extraordinaire. Et on aime d'être, regardez comme aujourd'hui, la vie chrétienne, la spiritualité chrétienne est loin de ça. On n'a pas du tout dit, ah Jésus mon maître, Jésus mon Seigneur. Allez, très bien, je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais Jésus mon petit enfant, Jésus mon bébé. Et quelquefois, je vous assure que la très sainte Trinité fait ça, la Vierge fait ça quand elle apparaît, elle vous met Jésus dans les bras. Hein. Elle vous le fait dans l'oraison. Dans l'oraison, quelquefois, le Saint-Esprit vous montre ça. Ah ouais. Et quand vous lisez la Bible, ah oui, quand vous lisez la Bible, je vous rappelle que quand vous lisez la Bible, c'est Jésus enfant, ça. Hein. Quand vous prenez l'Eucharistie, c'est Jésus homme. Quand vous prenez Jésus dans la résurrection, c'est Jésus mon Père. Mais quand je lis la Bible, c'est Jésus enfant. C'est pour ça que saint Antoine de Padoue, quand il lisait la Bible, au bout d'un certain temps, c'était Jésus enfant qui était assis sur la Bible et qui lisait des petits... N'oubliez pas, oui. C'est marrant quand hein, saint Thérèse d'enfant Jésus, sa maman est morte quand elle avait 4 ans, je crois, je ne sais plus. Du coup, sa sœur Pauline a remplacé sa maman. Et à l'âge de 8 ans, sœur Pauline est rentrée au Carmel. Donc elle se trouvait vraiment sans mère. Ça a réveillé à nouveau les blessures de la mort de sa mère, c'est normal. Et c'est à ce moment-là, l'âge de 8 ans, que la statue de la Vierge, que vous voyez à Lisieux, a souri à Sainte-Thérèse d'enfant Jésus. Elle a retrouvé sa vraie mère à travers l'Immaculée qui lui a souri physiquement et ça l'a guérie, n'est-ce pas? Et c'est quand même beau. Et puis plus tard, eh bien, elle va y avoir la deuxième grâce sensible, si je puis dire, qu'elle a eue, c'est à Noël, la naissance de l'enfant Jésus. Vous vous rappelez comme ses blessures, donc par rapport à la maternité et à la paternité, étaient si fortes en elle à cause de, vous savez que son père, par commode, hein, il est mort fou et tout ça. Donc la deuxième grande guérison de sa vie, c'était à Noël, c'était pas à Pâques. Noël, c'est l'enfance de Jésus. Alors, dans la crèche, devant la crèche, est-ce que j'ai envie d'aller embrasser les pieds de Jésus? Est-ce que j'ai envie de le prendre? Ou est-ce que je m'occupe uniquement des brebis pour faire avancer, je ne sais pas. Ma relation avec la crèche, est-ce que je touche jamais Jésus ou au contraire j'ai toujours envie de toucher Jésus? C'est curieux, ce n'est pas indifférent tout ça. Et il faut s'obliger à aimer Jésus avec tous ses substituts, ses images, ses icônes, l'icône de la nativité, etc. Dans les chemins du rosaire, est-ce que c'est les mystères de l'enfance de Jésus ou ça ne me dit rien du tout? Ou bien est-ce que c'est les mystères de la résurrection, ou les mystères de la gloire, où ça ne dit rien du tout. Ça, c'est quand même quelque chose. Dieu s'est fait chair pour nous guérir de toutes ces blessures d'enfantement, où nous sommes venus chez nous, et les nôtres nous ont dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment, tu nous déranges. Alors, quand on était enfant, il y a des frères et sœurs qui nous ont dit, qu'est-ce que tu fous là? Tu n'aurais pas pu ne pas exister, ouais. Ou nos parents. Ou quand on va à l'école, qu'est-ce que c'est que ce canard là? C'est un nouveau. Hein, l'école, la maternelle, où on prend classe, où tu arrives au lycée. Qu'est-ce que c'est que ce mec hein? Oh, écrase, tu n'as pas le droit d'exister. Tu nous déranges. T'es comme ça, moi je ne veux pas que c'est comme ça. Tu devrais être autrement. Ah, t'es catho. Ah, qu'est-ce que c'est là? Il n'existe pas, allez. On n'en veut pas de lui. Et tout ça, c'est des blessures de l'enfant. Ces blessures de l'enfant, elles doivent être guéries en reprenant Jésus. Et Jésus est accepté comme enfant par nous. Et c'est comme ça qu'on guérit de ces blessures de l'enfance où on n'a pas été accepté, où on a été refusé comme enfant. Et souvent, quand on a entendu, étant petit enfant, t'es pas comme il faut. T'es pas comme je voudrais. T'es pas sage. Ah, tu sais rien faire. Ah, c'est ma mère qui dit toujours ça. Ah, vous êtes nul. Ah, vous êtes nul. Donc, il faut apprendre à prendre Jésus dans mes bras pour l'aimer comme petit enfant. Et ça va soulager en nous et en même temps soulever en moi des émotions caractéristiques. Est-ce que ce sera une répulsion en disant « Ah, je ne vais pas faire ça quand même. » Est-ce que ce sera une douleur ou une souffrance qui va apparaître. Donc pour les filles, il faut prendre Marie hein, aussi. Il faut prendre Marie. Il faut prendre Marie, la petite enfant qui naît tout à fait immaculée. Il faut la prendre dans ses bras. Et c'est votre équivalent d'enfance, petite fille. Il faut aimer Marie. La nativité de Marie, le 8 septembre, est-ce que pour vous, ça a une signification nulle ou bien une très grande signification? Oh, mais vous, bien entendu! Mais bien entendu! Mais ben... La présentation de Marie au temple, est-ce que j'aime bien la Bambina, Santissima Bambina, cette statue est horrible, en plâtre, épouvantable. Donc, petit à petit, la paix se fera dans notre maison à force, rentrer dans ses équivalents surnaturels, la paternité, la maternité, des épousailles et de la petite enfance. Petit à petit, la paix va revenir dans ma maison. Actuellement, notre maison est comme un espèce de champ de démolition. Et Jésus te dit, l'Esprit Saint te dit, Immaculé te dit, Joseph est d'accord pour en participer concrètement, matériellement, tendrement et physiquement à ça. Je vais te rebâtir. Je vais faire fleurir ton désert. Je vais te rendre solide et comme une maison bien bâtie. Mon épouse est comme une cité généreuse et indestructible. Et donc la prochaine fois, mais je ne sais pas quand est-ce que ce sera, nous regarderons la gestion des émotions. Mais il faut commencer par les retrouvailles avec Jésus enfant, avec ma maman, avec mon papa spirituel, avec Jésus époux, avec Jésus mon frère, avec Jésus ma sœur, avec Jésus mon époux. Ça a marché? Bon. Bon, Marie-Ève a trouvé du travail. Et on a... Merci. 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 Merci.